Si tu me dis, Vincent, est-ce que 100% de vos clients sont responsables? Ben, il y a au moins 100% de nos clients qui ont le désir et ont manifesté le désir de l'être, qui veulent aller plus loin, puis qui comprennent l'importance que ça a, pas juste au niveau marketing, mais au niveau affaires.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 49e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Bâtir et entretenir une culture d'entreprise est un des éléments fondamentaux si on désire voir notre organisation grandir à travers le temps. Maintenant, c'est une chose de dire qu'on a une culture forte et c'est une autre de poser des actions concrètes qui prouvent que notre culture est bien implantée. Mon invité du jour, Vincent Fortin, président de l'agence de marketing République, a pris des décisions impressionnantes au cours des dernières années afin de démontrer qu'une entreprise se doit d'avoir plus qu'un simple objectif de profitabilité. En 2018, lui et son associé ont décidé d'exclusivement travailler avec des entreprises qui ont un impact social et environnemental. Lors de l'épisode, vous pourrez donc voir les résultats qu'une telle approche a eu sur son recrutement, sa croissance d'entreprise et également sur son positionnement. Sans plus attendre, ma discussion avec Vincent Fortin. Vincent Fortin, tu es le président de l'entreprise République, une agence de marketing à Montréal se spécialisant en création de contenu. Au cours des dernières années, vous avez bâti une identité solide en acceptant de travailler uniquement avec des clients qui ont un impact social et environnemental positif. Vincent Fortin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Je suis bien content de discuter avec toi pour la prochaine heure. Donc, ouais, effectivement, on a pris des engagements dans les dernières années qui ont été assez bold, mais qui nous représentent bien en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai bien hâte de parler de ça avec toi.
Effectivement, je pense que c'est important des fois de prendre des prises de position comme ça. Puis, parlons-en un petit peu. En 2015, j'ai cru voir que votre agence a reçu la certification B Corp. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, une certification B Corp est émise aux entreprises qui arrivent à naviguer entre engagement social, engagement environnemental, profitabilité et contribution à l'intérêt général. Du moins, c'est ce qu'ils disent dans leur statement. Peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette avenue-là il y a quelques années?
Oui, tout à fait. Donc, la certification B Corp, on en avait, en fait, ça a été vraiment ce qui nous a connecté, moi et mon associé, à l'époque. Donc, quand on a racheté République, on a eu cette opportunité-là de racheter une agence. Puis avant même de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec l'agence, puis on partage ça, toi et moi, on a rapidement été vers une niche. On savait qu'on voulait devenir B Corp. Donc, on savait que pour nous, les entreprises de demain, c'était des entreprises qui étaient à la croisée du modèle corporatif régulier qu'on connaît là, depuis l'ère du capitalisme et le modèle social, qui est un OBNL auquel on pourrait se référer. Donc, à la croisée des deux, donc d'être capable de faire du profit avec une raison d'être qui est forte. Donc, c'est sûr que la certification B Corp, c'est probablement une des certifications, un des plus connues. C'est un modèle de gouvernance qui est super intéressant, qui nous a permis aujourd'hui d'implanter beaucoup de choses dans notre entreprise, qui nous a permis surtout d'avoir un regard assez critique sur les opérations qu'on avait, les portes d'amélioration. Puis c'est ce qui nous a porté aussi à avoir un engagement un petit peu plus significatif en 2018 pour ce désir-là, là, justement, d'être un peu plus responsable puis de cadrer encore plus dans les standards de B Corp.
Puis j'imagine, puis on va en parler un petit peu, ça doit être un très bon impact pour attirer des talents, hein? Parce que en 2020, un petit peu comme tu l'as mentionné, une entreprise qui a seulement un intérêt économique a de moins en moins la cote au vu des employés, du moins les employés un petit peu plus jeunes. Puis les gens à l'intérieur d'une organisation veulent souvent travailler pour quelque chose d'un petit peu plus gros qu'un aspect purement économique. Moi, j'aimerais ça que tu me dises, Vincent, si c'est possible, la dynamique. Qu'est-ce qui a changé un petit peu quand vous avez pris, du moins que vous avez eu la certification B Corp, qu'en 2018, vous avez pris la décision ferme de travailler uniquement avec des entreprises qui ont un impact social et un impact environnemental? C'était quoi le changement que tu as été capable de voir à l'intérieur de ton organisation ou même peut-être dans des entretiens d'embauche quand tu devais amener du nouveau talent à bord?
Donc, tu sais, c'est certain que moi, je dis souvent, on n'est pas dans la business de vendre des heures, on est dans la business de recruter les meilleures personnes. C'est ce qu'on vend, c'est du talent. Puis, à la fois la certification, l'engagement, mais surtout l'authenticité que ça l'a dégagé, tu sais, parce que veut pas de certifier B Corp, de prendre des engagements, puis après ça, de les vivre au quotidien. Mais ça fait en sorte aujourd'hui que on est une entreprise, tu sais, dans laquelle il y a cette émotion-là, puis il y a cette passion-là de vous faire des affaires un petit peu autrement. Donc, c'est certain que il y a eu un certain attrait au niveau de la marque employeur, puis ça a été aujourd'hui quand même, un succès de ce côté-là. Donc, on a beaucoup plus de possibilités d'engager des gens, puis les gens qu'on rencontre sont beaucoup plus motivés à venir travailler chez nous que ce qu'ils pouvaient être avant. Tu sais, l'entrevue est à l'envers hein, maintenant. Souvent, les gens... Puis peut-être un petit peu moins là depuis la COVID, les enjeux de récession, peut-être ça va changer un petit peu. Mais juste avant la COVID, quand on passait une entrevue, ben il y avait vraiment cette notion-là de on passe une entrevue, il y a l'employeur qui regarde le potentiel collègue, mais après ça, il y a aussi cette personne-là qui est là, bon, mais si je viens travailler pour vous, c'est quoi votre mission? C'est quoi vos valeurs? Il y a ces questions-là qui ressortaient de plus en plus. Puis, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait beaucoup à dire, on avait beaucoup à répondre en matière de responsabilité sociale, en matière de responsabilité un petit peu plus de notre gouvernance d'entreprise, la transparence qu'on amenait. Ça, souvent, ça ressort beaucoup. On est très transparent sur la vision de l'entreprise, des chiffres, où on s'en va. C'est très bottom-up comme organisation, ça fonctionne super bien. Donc oui, au niveau de la marque employeur, ça a été quelque chose qui a eu, comment pourrais-je dire, un bon succès, mais c'est toujours à travailler, tu sais, t'es aussi bon que les derniers coups que t'as fait. Puis les gens, ils veulent quand même travailler sur des projets aussi qui sont attrayants, le fun, sur des clients qui sont le fun. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'on attire des clients qui sont plus proches de nos valeurs. Donc, les gens qui nous choisissent pour ces valeurs-là, ben nécessairement ont l'opportunité de travailler avec des clients qui les représentent plus. Donc, il y a ce côté-là aussi de concrètement, là, ton quotidien, ton 9 à 5, as-tu du fun? T'aimes-tu les clients pour lesquels tu travailles? T'as-tu un sentiment d'accomplissement quand tu passes la porte puis aujourd'hui quand tu ouvres ton laptop le matin? Ce sentiment-là, je pense que il est de plus en plus là chez nous, là, tu sais.
Intéressant. J'avais eu sur Hypercroissance un entretien, je pense que c'était l'épisode 30, avec Martin Latulippe, qui est un formateur au Québec qui est beaucoup dans le monde du développement personnel. Puis il avait dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit « On s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. » Et là, tu m'as parlé un petit peu de ce que cette vision-là, cette approche-là a pu avoir au niveau des employés pour le recrutement. Peux-tu me parler un petit peu maintenant de ce que ça a pu avoir comme impact au niveau des clients? Parce qu'à un certain point, en 2018, quand vous avez pris un petit peu cette décision-là, j'imagine que ça a dû être graduel. Là, vous n'avez pas dit à vos clients du jour au lendemain qui partageaient peut-être pas les mêmes valeurs, on arrête de travailler ensemble. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es capable de nous dire si ça a peut-être attiré plus de clientèle? Est-ce que tu as eu à prendre des décisions difficiles de rompre des partenariats? Comment que ça s'est passé tout ça?
Écoute, c'est rare en entrepreneuriat qu'il y a juste des histoires roses. Hein. Donc, quand on a fait ça, c'était un peu, comme on peut dire, c'était un move très entrepreneurial. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on veut faire. On s'en va vers là, ça fait déjà 2-3 ans qu'on est B Corp. Si on veut vraiment avoir de l'impact, faut travailler avec des clients qui veulent eux aussi avoir de l'impact. Donc, on s'en va dans cette direction-là. Évidemment, on l'a fait... au mieux qu'une agence de communication marketing peut le faire. Donc, c'est sûr qu'on l'a préparé, on l'a brandé, on est venu mettre du crémage autour du gâteau. Quand tu dis, du jour au lendemain, on va pas aller voir nos clients puis leur dire, écoute, on fait pas affaire avec toi, évidemment non. Mais faut que tu ailles voir tes clients du jour au lendemain puis tu leur expliques d'ici 2 ans, on aspire à être différent en tant qu'agence puis on veut travailler avec des clients qui partagent des valeurs communes. Voici nos valeurs. Donc, voici notre mission. Voici notre raison d'être. Donc, c'est certain que on a fait le tour de nos clients. Fait qu'on a, on a fait un tour complet. On a rencontré chacun de nos clients un à un. On leur a dévoilé en avant-première, avant même que ça sorte, tu sais, grand public, si on pourrait appeler ça. C'était quoi notre nouvelle mission? C'était quoi notre nouvelle vision? C'était quoi notre raison d'être? Puis, c'était quoi notre ambition d'ici à 2021? Puis là, ben, il y a des clients qui ont fait, je vous comprends, c'est exactement là où il faut aller. Nous aussi, on est dans ces réflexions-là, puis on est content de voir que notre agence a de l'innovation puis est aussi forward-thinking. Bon, certains clients nous disent ça. Il y a d'autres clients qu'eux autres sont là comme, bon, ça veut dire quoi dans 2 ans si on respecte pas ça puis on n'a pas ces valeurs-là? Mais là, c'est certain que c'est là où la politique embarque, où tu as des clients qui t'ont permis de prendre ces décisions-là. Puis moi, c'est tout le temps comme ça que je l'explique au reste de l'équipe puis aux gens. C'est les clients qui nous ont permis d'avoir les moyens de nos ambitions puis de faire un engagement comme ça. Ça reste que c'est des clients qui nous ont fait confiance. On va pas du jour au lendemain les regarder de haut. On va continuer de les remercier, d'être reconnaissant de leur business. Puis on va continuer à les servir du mieux qu'on peut puis au travers de nos convictions. Toutefois, ben notre offre de service est teintée de nos convictions. Donc, nos propositions stratégiques, nos propositions créatives, comment qu'on gère le truc, ben veut pas, c'est proche de nos valeurs. Donc, c'est sûr que avec une période de 2 ans comme ça, si ce qu'on propose est moins en lien ou moins en ligne avec ce que le client puis où le client veut aller, ben il y a une certaine épuration naturelle qui va se faire. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. T'sais, aujourd'hui, je suis capable de te dire, si tu me dis, Vincent, est-ce que 100% de vos clients sont responsables? Ben, il y a au moins 100% de nos clients qui ont le désir et ont manifesté le désir de l'être, qui veulent aller plus loin, puis qui comprennent l'importance que ça a, pas juste au niveau marketing, mais au niveau affaires. Donc, je suis capable de dire aujourd'hui qu'on avait des ambitions qui étaient énormes. Puis, ben aujourd'hui, on n'est peut-être pas à 100% là où on voudrait être au niveau de nos ambitions, mais on est clairement, je pense qu'on a relevé le défi quand même avec brio. Puis je suis pas du tout gêné de où on est aujourd'hui, puis les clients qui travaillent avec nous, puis qui vont continuer de travailler avec nous en 2021, c'est tous des clients qui ont les valeurs à la bonne place, puis qui veulent mettre une raison d'être de l'avant qui est pas juste une raison d'être, un purpose régulier, mais qui est une raison d'être avec de l'impact, avec un impact social, avec un impact environnemental, puis qui ont le désir de se transformer au cours des prochaines années.
Intéressant. Fascinant même. On a parlé brièvement un petit peu plus tôt du volet employé. J'aimerais ça retourner là-dessus. Je faisais mes recherches avant l'enregistrement d'aujourd'hui, puis bon, on enregistre le podcast 22 octobre 2019, donc on est encore en plein dans cette pandémie de COVID-19. Et j'ai cru voir que cet été, du moins l'été dernier, vous avez bâti un genre de bureau éphémère, un bureau temporaire au Mont-Tremblant. J'ai trouvé l'initiative complètement fascinante. Peux-tu me dire un petit peu c'était quoi l'idée derrière ça puis comment que ça s'est matérialisé cet été tout ça?
Ouais, tout à fait. Ben écoute, je vais essayer de te faire une histoire courte là parce que c'est un peu un enchaînement de constats avec certains la réalité du COVID évidemment là. Mm-hmm. Arrive la COVID, du jour au lendemain, on décide, bon, mais République, la COVID, ça va se faire en télétravail. Donc, du jour au lendemain, on est en mode télétravail avec une procédure qu'on avait faite, là. Donc, on avait vraiment établi, là, cette nouvelle réalité-là pour que tout le monde sache un petit peu, voici les repères maintenant. Donc, on avait plein d'initiatives qui étaient des initiatives humaines, personnelles, sociales, qui était pas juste « voici comment que maintenant on va reporter sur nos projets ». Puis, dans les initiatives qu'on avait, moi, je parlais à chacun des membres d'équipe aux 2 semaines. Donc, j'avais une demi-heure de bloqué dans mon agenda pour parler à tout le monde une fois ou deux semaines, savoir comment ça va, très des nouvelles très informelles, pas tes projets puis professionnellement, mais plus toi, comment ça va. Parle-moi un petit peu plus là de ton quotidien. Tu vis ça comment, le confinement? Puis, ben moi, j'ai eu la chance, dès que la COVID est arrivée, on est allé au chalet, ma blonde et moi, fait qu'on est parti le vendredi, je pense que c'était le 13 mars, là, si je me trompe pas. On est monté tout de suite au chalet. Puis, tu sais, moi, quand je faisais ces one-on-one-là, qui est notre terme à l'interne de petite rencontre un petit peu plus personnelle, je réalisais que les gens qui étaient sur le plateau dans un appartement qui faisait du télétravail avec leur coloc, puis j'avais d'autres personnes qui étaient en pleine nature, qui étaient allées soit chez leurs parents ou dans une résidence secondaire. Donc, si on veut, les privilégiés du COVID avaient pas du tout le même... tu sais, je sentais pas qu'ils étaient nécessairement à la même place au niveau de leur bonheur quotidien, si on peut dire ça ainsi. Suite à ça, c'est là que l'idée... Elle m'est arrivée un peu en me disant, ah, ben, tu sais, on pourrait peut-être leur permettre de sortir de la ville puis aller en nature. Puis là, un moment donné, je faisais une ride de vélo en fin de journée. Là, je vois bureau à louer. Là, moi aussi, je commençais à en avoir un peu mon, tu sais, d'être à la maison. Là, je commençais à trouver ça plate un peu. Fait que je me suis dit, ah, je pourrais peut-être me louer un bureau à Tremblant, travailler de là, récupérer une certaine routine. Tu sais, puis pas une routine de faire la même affaire tout le temps, mais justement, une routine dans laquelle tu vois des choses différentes, que tu te déplaces pour aller quelque part, que tu rencontres 2-3 personnes, parce que la routine devient longue un peu sinon entre les quatre murs. Fait que là, je vois ça, le bureau, là, je connecte un petit peu les tu sais, je fais un bout de chemin dans ma tête, j'appelle Martin, qui est notre responsable de la culture, je dis hey, « qu'est-ce que t'en penses, on pourrait louer un chalet, on pourrait regarder ça, puis on pourrait louer un bureau en même temps. » Là, c'est un peu fou, là, faut que tu te mettes dans mes bottes, là. On a un bureau vide à Montréal, là, centre-ville. On a 7000 pieds carrés, c'est vide. Puis là, moi, tu sais, j'appelle mon gars de culture, je dis, on pourrait louer un autre bureau, puis un chalet à Tremblant. Là, il me dit, OK, ouais, je peux commencer à regarder ça. Fait que finalement, il commence à regarder, trouve un chalet. Puis écoute, en dedans de 3 semaines, on avait un bail pour le bureau de signer. On avait le chalet de signer. On déménageait le bureau à Tremblant parce qu'on a pris des meubles de notre ancien bureau. Fait que c'est sûr que en 3 semaines, là, tout ça, c'est fait. Ça, on est parti de l'idée à l'exécution. Fait que ça, c'est du momentum entrepreneurial, comme on appelle. On annonce ça à l'équipe. On leur dit, bon, pendant les 3 prochains mois, on va avoir un bureau puis un chalet à Tremblant. Puis l'autre élément déclencheur, c'est ça. Ça a vraiment été quand tu pouvais aller te rassembler 3 familles dans un chalet. Là, pour moi, je me suis dit, bon, ils vont pouvoir y aller en équipe de 3. Puis ils vont pouvoir aller travailler pendant une semaine à Tremblant avec le chalet, le soir aller souper sur le lac, aller hiker, rester une fin de semaine là. Fait que, en tout cas, fait que finalement, ça a super bien marché. Là, aujourd'hui, on est en octobre, on a commencé ça juillet ou septembre, mais on a prolongé pour octobre un mois de plus. Fait qu'on a fait ça pendant 4 mois. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont là pendant presque tout le mois à cause des déplacements interrégions là, qui sont qui sont actuellement un peu proscrits.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc agange@j7media.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours.
C'est ça. Ça a été une initiative quand même intéressante qui a été super appréciée du reste de l'équipe, évidemment, aussi. Là. Fait que c'est sûr que c'est très entrepreneurial en termes de move. Là. Il n'y a pas de grosse rationnelle économique là-dedans. Mais au niveau du bonheur, écoute, c'est ce que j'avais dit, là, la presse s'est intéressée à l'histoire, puis c'est ce que je leur avais dit. Ils m'avaient posé la question, ça coûte combien? J'avais dit, ben, tu sais, ça coûte combien avoir des employés malades? C'est un peu vrai, là, dans les faits, là. On s'entend pour dire, là, tu sais, c'est peut-être pas mieux d'avoir du monde malade. Puis c'est sûr qu'on faisait des économies en ayant le bureau fermé à Montréal aussi, des coûts à opérer le bureau. Là. Fait que, écoute, ça a été super bien reçu. Puis moi, aujourd'hui, là, on est capable de dire, là, toute l'équipe de direction, là, que c'est une initiative qui a eu un franc succès.
Je suis jaloux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que l'idée était vraiment... J'aurais dû le savoir avant, puis je t'aurais volé l'idée, j'aurais fait la même chose. Puis, parlant de ces initiatives-là, j'en voyais une autre là que vous faites. C'est le town hall trimestriel. Là. Je pense que c'est comme ça que vous l'appelez. Donc, c'est bon. Des réunions d'équipe aux 3 mois. Beaucoup d'entreprises ont ça. C'est assez fréquent. Mais vous les faites avec des gens externes un petit peu, des fois que j'ai été capable de voir. Je voyais récemment, vous faisiez, c'est ça, un genre de rencontre d'équipe où est-ce que vous allez même offrir à certains employés des récompenses s'ils ont été les employés peut-être les plus performants ou qui se sont le plus démarqués dans les 3 derniers mois. Et je voyais des personnalités publiques comme Nicolas Duvernois qui se joignaient à ces rencontres Zoom-là. Peux-tu nous parler de cette autre initiative qui a l'air assez intéressante également?
Ouais, donc les tendances pour nous là, c'est une initiative beaucoup de culture, mais c'est une initiative aussi de transparence au niveau des résultats de l'entreprise. Donc on en est où dans notre plan d'affaires? Donc on se fixe des objectifs trimestriels, annuels. Puis le tendance, c'est le moment pour nous de faire 2 choses, de leur dire on en est où dans l'année par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc on fait une forme de reporting. Puis de dire, c'est quoi les objectifs des 3 prochains mois? Donc ça, c'est objectif numéro 1 du temps d'ordre. Objectif numéro 2, on a des devises d'entreprise qui sont notre façon d'appeler ça, c'est nos valeurs à nous qu'on a appelées des devises. Donc, on a 5 devises qui servent à avoir des comportements qui sont entendus au niveau de la business, mais surtout, tu sais, pour voir si... Les valeurs au niveau de l'embauche, ça fit. C'est des choses qu'on évalue tout au long de l'embauche, puis qu'on va évaluer après ça tout au long là, du parcours de l'employé pour savoir si, dans le fond, il y a toujours un fit avec les valeurs de la business, les devises de la business pour cette personne-là. Évidemment, pour que ça monte, ça descend. Puis, on a une formule aussi au niveau des actions, puis c'est là qu'on vient au temps d'âle, c'est que à toutes les fois qu'on a un employé ou une employée qui fait une bonne action qui sont en lien avec les devises. Donc, je te donne un exemple. On a une devise au niveau de speak real, donc parler vrai. C'est à toutes les fois qu'on a quelqu'un dans un meeting ou quelque part, tu sais, qui met son poing sur la table, puis qui va un petit peu à contresens, mais qui dit ce qu'il pense. Ben là, c'est là où on a une autre personne, un collègue qui va arriver et va dire, c'est speak real ça. On a un petit landing page, il va aller nominer la personne, puis il va dire, ben Julia, dans tel meeting, a vraiment speak real quand c'était le temps de parler de tel truc. Des fois, c'est des projets. Des fois, c'est des trucs. On a une autre valeur qui est think bold. Donc là, c'est s'il y a un projet qui s'est démarqué, puis on a, exemple, un motion designer qui a fait une super bonne job, un créatif qui a sorti une idée qui était inattendue un petit peu, qui était vraiment en dehors du brief, mais qu'on a réussi à faire passer. Donc, il y a des nominations comme ça pendant 3 mois. Puis une fois que les nominations pour chacun des totems, là, l'équipe se regroupe, donc c'est nommé par le monde, puis c'est aussi voté par les gens. Donc, il y a un comité qui se regroupe pour dire, ben voici les top nominations qu'on a eues ce trimestre-ci. Puis après ça, les top nominations sont envoyées à l'ensemble de la population républicaine et la population prend un vote sur chacune des devises. Puis c'est là où, suite à ça, ben ça nous donne la personne qui gagne le totem qu'on appelle. Puis là, on a vraiment fait des totems physiques. Donc, ces totems-là, c'était cool parce que quand on était au bureau, ben, tu sais, la personne avait le totem sur son bureau. Donc, on a un totem qui est, tu sais, pour le speak real, par exemple, qui est tout en vert, qui est transparent pour la notion de transparence. On a un autre totem qui est la notion de commitment, puis d'être vraiment, tu sais, le travail d'équipe, puis, tu sais, d'être capable de nurture ses relations. Il y a une plante au bout, fait que, tu sais, il y a cette notion-là d'arroser la plante. Donc, c'est des totems qui avaient été faits par machine dans le temps, là, qui nous ont aidé un peu à exprimer nos devises dans des pièces uniques, là. Fait que tu as le totem pendant 3 mois, puis après ça, tu le passes à quelqu'un d'autre le trimestre suivant.
Puis, t'as des gens externes qui viennent. Tu sais, quand Nicolas Duvernois est venu, c'est...
Ah oui, c'est ça. Oui. Au niveau des, donc, on a commencé ça il y a quelques temps d'âge. Donc, la remise des totems qui représentent nos devises est faite par un entrepreneur, une personnalité publique, ou ça peut être pas mal n'importe qui, c'est pas juste des entrepreneurs, mais ça peut être un artiste qui vient puis qui, dans le fond, remet le totem à la personne qui l'a gagné. Là. Fait qu'il dit, il parle, il va parler de toutes les personnes qui ont été nominées, puis après ça, il, comme aux Oscars, là, et le gagnant est telle personne. Fait que si on fait ça maintenant, c'est vrai, on invite un petit peu des personnes qui représentent nos devises là, pour donner les totems. C'est cool, ça rajoute une histoire. Évidemment, ces personnes-là, au début, parlent un petit peu de leur parcours, parlent un petit peu de son rendu où. Fait que tu sais, il y a une certaine notion d'inspiration. Puis dans notre cas, ben, on essaie d'inviter des gens qui non seulement représentent nos devises, mais qui ont aussi un parcours où la responsabilité sociale puis responsabilité environnementale est importante. Donc, on essaye aussi d'inspirer de ce côté-là. Là, tu sais, c'est un peu une poupée russe, là, tout est dans tout. Là.
Intéressant. Vous avez l'air de bien maîtriser tout l'aspect culture d'entreprise, de bien construire ça pour être certain que les employés restent attachés, trouvent ça intéressant, ce qu'ils ont à faire au day-to-day. Parle-nous un petit peu du futur là, de ton agence présentement. Où est-ce que tu vois République avec ses employés, avec ses clients, grandir au cours des prochaines années? Est-ce que vous avez une vision, un objectif spécifique à atteindre?
Ouais, tout à fait. T'sais, c'est sûr que République, aujourd'hui, on est dans une certaine niche dans le sens où les services qu'on offre sont précis. On a des parcours aujourd'hui qui sont presque des produits. Donc, on va faire de la transformation, de la refonte de marque. On va faire des campagnes de sensibilisation, donc des campagnes de responsabilité sociale d'entreprise. Puis, on va faire du contenu digital, tu sais, plus une forme de laboratoire, donc contenu quotidien, activation au niveau de la performance. Donc, c'est ces trois produits-là qu'on a. Donc, c'est certain que ça, c'est notre niche de service, mais on a une niche au niveau du type de client qu'on attire. Donc, c'est toujours des clients qui ont une raison d'être ou qui aspirent à avoir une raison d'être qui a un impact social ou environnemental. Donc, à ce niveau-là, on peut tout à fait aujourd'hui, surtout dans un contexte de télétravail comme on est là, desservir des clients ailleurs au Canada, puis d'ici un an ou deux, desservir des clients ailleurs en Amérique du Nord. On est tellement une des seules entreprises qui aujourd'hui fait ce qu'on fait. Donc, tu sais, je te donne un exemple. Toute notre réflexion stratégique de marque s'appuie sur des objectifs de développement durable de l'ONU. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ce canevas-là de travail. Puis évidemment, c'est pas quelque chose qui est commun. Puis tu sais, après ça, la valeur est dans l'exécution de cette méthodologie-là. Je pense que l'unicité de nos services, puis surtout l'unicité de notre mindset, la façon avec laquelle on livre nos services, fait en sorte que la croissance pour nous est d'en devenir une agence boutique qui pourrait avoir d'autres places d'affaires, évidemment, ailleurs en Amérique du Nord, ou sinon il y a des marchés comme Londres ou des marchés comme la France qui sont beaucoup plus matures à des discours comme le nôtre parce que la responsabilité sociale des entreprises est non seulement plus connue, mais souvent beaucoup plus légiférée. Donc, au niveau de d'être capable de fournir de l'information au niveau extra-financier, là, au niveau des entreprises publiques, par exemple. Londres et la France sont des marchés plus matures à ce niveau-là parce qu'au niveau de la législation, c'est beaucoup plus légiféré qu'ici. Donc, les entreprises se doivent d'avoir une responsabilité sociale et environnementale et prennent ça, évidemment, beaucoup plus au sérieux. Fait que pourquoi pas, tant qu'à le faire, de se servir de ça au niveau marketing.
Intéressant. Je pose souvent ces questions-là en début d'interview, mais je vais te le poser à la fin aujourd'hui. Tu as racheté l'agence, comme tu nous as dit, il y a quelques années de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à racheter l'agence République? Parce que j'ai cru comprendre en lisant ta biographie que tu as travaillé au sein de l'organisation quelques années avant, dans des postes différents. Qu'est-ce qui a poussé Vincent Fortin à racheter République? Là, je pense que c'était en 2014-2015, je crois bien.
Ben en fait, petite nuance, j'ai pas travaillé pour République, mais c'était un partenaire d'affaires. Okay. au moment où on l'a racheté. Donc, c'est une agence que je connaissais. Écoute, c'est pas quelque chose qui a été orchestré très longtemps d'avance, là. JP et moi, mon partenaire d'affaires actuel, on avait un projet commun. Puis, tu sais, je te résume ça là, en quelques mots. On voulait faire du branding et surtout de la communication numérique pour les athlètes. Parce qu'on s'est dit, chaque athlète, là, on parle de ça en 2014, chaque athlète va devenir un média en soi puis va avoir une portée intéressante. Fait que pourquoi pas profiter de ce porte-voix-là pour bâtir l'après-carrière des athlètes puis les positionner sur une raison sociale ou une raison environnementale, encore une fois, pour être capable de vraiment, justement, profiter de ce spotlight-là pour éventuellement préparer cette après-carrière-là. Tu sais, un athlète professionnel aujourd'hui a une carrière de 7 ans, 8 ans, 9 ans en moyenne. C'est pas très, très long. Donc, c'est un questionnement que les athlètes ont de dire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire après? Mais c'est le temps de le préparer pendant que tout le monde te regarde et t'as le spotlight. Donc, on a eu c'est là qu'on a eu l'opportunité de République. République faisait du design, faisait des marques. On s'est dit, bon, on va être capable de prendre l'agence, greffer notre projet entrepreneurial là-dedans. Finalement, on a toujours eu cette ambition-là. On est arrivé dans l'agence, les choses ont déboulé. On a essayé de faire un ou deux projets avec des athlètes. Ça n'a pas exactement fonctionné comme on voulait. Le plan d'affaires était peut-être pas assez mûr à ce niveau-là au moment où on le fait. Mais exact, ça a été vraiment de combiner un petit peu deux projets au travers de cette transaction-là.
Merveilleux. Puis regarde, avant de te laisser filer, Vincent, petite question personnelle. Es-tu un lecteur? Aimes-tu un peu les livres d'affaires?
Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un qui... J'ai quelques petits livres là que je retourne voir de temps à autre. On a un modèle d'opération là qui est EOS au bureau, qui vient d'une série de livres qui s'appelle Traction.
Ben oui.
Traction, est, tu l'as en arrière de toi? Bon, c'est ça. Donc, Traction, c'est un livre sur lequel... évidemment, une fois de temps en temps, puisqu'il y a beaucoup de concepts dans Traction, donc je retourne des fois relais, bon, c'est quoi exactement ce concept-là? Puis il y a beaucoup de composantes. C'est vraiment un modèle d'opération. Puis nous, on roule notre business sur EOS. Donc, c'est un livre sur lequel je retourne souvent. Mais sinon, Good to Great, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. sur lequel je retourne quand même assez régulièrement. Dans la mesure où je pense que surtout sur le chapitre du leadership, je trouve que c'est important quand t'es dans un rôle de leader de te rappeler, de te grounder assez souvent sur cet aspect-là, puis que tu sais que tu le fasses le rôle de leader avec une certaine humilité. Donc il y a des belles leçons dans Good to Great pour n'importe qui est dans un poste de leadership. Donc c'est un livre que je conseille à n'importe qui s'intéresse un petit peu au monde des affaires. Là, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes en entrepreneuriat puis dans le monde des affaires sur qui devrait occuper quel rôle dans une entreprise et pourquoi. Je pense que Good to Great vient casser beaucoup de ces stéréotypes-là puis le fait d'une belle façon parce que c'est fait de façon pragmatique. Mm-hmm. Puisque c'est des statistiques sur les entreprises qui ont le mieux performé sur une période de 15 ans. Donc ça fait démordre certaines personnes qui des fois disent ah, ces livres-là c'est un petit peu des gourous. C'est un livre très cartésien, très pragmatique, fait avec des statistiques, donc c'est un petit peu difficile il est plus difficile à briser pour les sceptiques, disons.
Podcast, en écoutes-tu un peu?
Oui, podcast. Écoute, moi j'ai des podcasts qui m'ont je pense que n'importe qui veut commencer dans le podcast How I Built This, c'est un podcast qui date quand même là, mais c'est un podcast qui est très intéressant, qui je pense a le potentiel d'inspirer beaucoup de personnes vers l'entrepreneuriat. Moi, mm-hmm. Je pense qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. Je pense qu'on on est une société, surtout une société québécoise, là, je pense qui mériterait à... tu sais, moi, j'ai eu un parcours à l'école d'entrepreneurship de Beauce qui m'a transformé, moi, en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai l'impression qu'on gagnerait à avoir plus d'entrepreneurs. Puis « How I Build This » te montre qu'il n'y a pas une façon d'être entrepreneur. Tu sais, c'est ta façon, mais c'est beaucoup de... Tu ressors de ça quand même, tu t'identifies à quelques podcasts, à quelques émissions, à des personnes qui sont intéressantes, puis là ça te permet après ça d'aller creuser un petit peu plus dans le parcours de ces entrepreneurs-là. Fait que moi c'est un podcast qui m'a quand même beaucoup marqué, là, je te dirais.
La dernière question que je te pose, je suis toujours fasciné par les routines des gens que j'interviewe. Est-ce que tu as des routines, toi, matinales, après le travail ou peut-être même pendant que tu travailles, qui t'aident à rester concentré, à rester focus?
Écoute, je suis pas quelqu'un, puis les gens qui me connaissent pourraient te confirmer, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de routine. J'ai pas de, tu sais, je suis pas quelqu'un de superstitieux. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que j'ai une hygiène de vie. Ça, pour moi, c'est super important. Je pense que d'être capable de donner de la perspective vient beaucoup avec l'hygiène de vie. De commencer, tu sais, je veux dire, je fais beaucoup de moments où j'ai pas de téléphone. Dans un week-end, là, un moment complet où je déconnecte, puis je fais d'autres choses, je laisse mon téléphone de côté, ça c'est super important pour moi. Le sport, bien m'alimenter aussi, là, je te dirais que c'est quelque chose d'assez important. De plus en plus aussi, j'essaie de manger sur une plus courte période dans la journée. J'essaie de pas manger tard le soir, puis le matin, j'essaie de manger un petit peu plus tard, puis un petit peu plus tôt. Quelque chose qui m'aide moi. Donc, oui, je te dirais, là, c'est une super bonne question. Je suis pas quelqu'un de routinier, donc je vais pas me lever tous les matins, faire 30 minutes de ci, mais je suis capable de dire que sur une période peut-être d'un mois, il y a beaucoup de choses qui reviennent, puis il y a beaucoup de choses qui... il y a beaucoup d'habitudes. Tu sais, si tu calculais le temps de sport que je fais, l'investissement au niveau d'être déconnecté de mon téléphone, de passer du temps entre amis aussi, de connecter avec des amis, connecter avec ta famille, connecter avec ta blonde, ta femme. J'ai pas encore d'enfant, mais tu sais, connecter avec tes proches, je pense que c'est important aussi. Ça te garde souvent groundé sur... c'est ce qui est vraiment important dans la vie, là. Je pense que ultimement on tripe tout sur faire des affaires, avoir une business. Puis tu sais, moi c'est très prioritaire dans ma vie parce que je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par mon entreprise, mais autant faut-il qu'il y ait un certain équilibre de vie avec les gens autour de moi, puis faut pas négliger cet aspect-là, là.
Effectivement, c'est très bien dit. Vincent, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était complètement fascinant, ta vision de la culture d'entreprise. Je pense que je vais prendre quelques techniques puis je vais les appliquer également à ce que je fais au day-to-day. Et regarde, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Un peu comme Éric Naman lors du 42e épisode, Vincent m'a grandement impressionné aujourd'hui de par sa vision reliée à la culture d'entreprise. J'ai de plus en plus l'impression que des organisations qui n'auront pas une vision similaire risquent d'avoir de la difficulté à attirer du talent au cours des prochaines années. À suivre, mais pour l'instant, force est d'admettre que République est clairement novateur en arrivant à mixer mission sociale et économique. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.